100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Questa è la Certosa dei Trisulti, un monumento nazionale affidato alla DHI, una fondazione religiosa vicina all'ideologo della destra nazionalista Steve Bannon.
Bonjour. Dans les paysages bucoliques des montagnes du Lazio en Italie, se niche l'ancienne chartreuse de Trisulti. C'est un bâtiment majestueux transformé en monastère après la guerre et aujourd'hui désaffecté, faute de vocation. Et c'est là, entre ces murs vieux de plus de 800 ans, que l'ex-conseiller de Donald Trump, l'ultra-conservateur américain Steve Bannon, veut installer son académie pour former l'élite populiste. Mais le projet patine sérieusement. La Cour des comptes italienne a ouvert une enquête sur l'appel d'offres qui a permis à l'association de Steve Bannon de gérer le monastère. Et les obstacles s'accumulent pourtant. Les populistes, eux, veulent y croire, comme l'a constaté Franceline Beretti qui a visité les lieux.
Le vent et les chats ne sont pas les seuls occupants du monastère de Trisulti. Un frère y vit encore et depuis presque un an, il a un nouveau colocataire. Benjamin Arnwell, britannique de 43 ans, est le nouveau maître des lieux. Il nous fait visiter ce qui doit accueillir des étudiants dès cet automne.
Voilà, ça c'est l'ancienne manufacture, ce sera le réfectoire.
Votre réfectoire ? C'est pas mal. Sur les peintures des plafonds, des murs, les lieux sont imprégnés de l'histoire du catholicisme et du Vatican.
Ces deux autels, ici, ce sont des éléments qui datent du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Ils ont été ramenés par les croisés.
À côté de la chapelle, le potager, abandonné aux mauvaises herbes, l'élégante pharmacie, où les moines préparaient leur mélange à base de plantes, et les anciennes cellules, les futures chambres des étudiants.
Voilà, c'est ce genre de chambre qu'on a. On veut encore y ajouter une salle de bain et un deuxième lit pour en faire une chambre double.
C'est rudimentaire, mais la vue sur les montagnes du Lazio est splendide. Benjamin Arnwell et son mentor Steve Bannon mènent une guerre pour la défense des valeurs judéo-chrétiennes. Avec cette académie, ils veulent former leurs soldats, politiciens, journalistes, chercheurs, communicants. Certains l'appellent l'école des souverainistes, mais le Britannique part de beaucoup plus loin.
L'académie pour un Occident judéo-chrétien part du principe fondamental que chaque individu est fait à l'image de Dieu, imago Dei. Et c'est en opposition très forte avec l'idée darwinienne que l'homme est simplement le survivant des plus adaptés.
Mais j'imagine qu'il existe déjà en Europe des écoles qui apportent ce genre de message éducatif.
On ne va pas faire les choses à moitié et seulement expliquer à quel point la tradition judéo-chrétienne est belle. On essaie de montrer que cette bataille se joue dans la sphère politique, dans les médias, dans le monde universitaire. Il y a une guerre fondamentalement anthropologique en cours sur la nature humaine.
L'Italie n'a pas été choisie par hasard par Dignitatis Humanae Est, l'association catholique traditionnaliste derrière Arnwell, celle qui est censée payer le loyer. C'était près de Rome, d'Athènes ou de Jérusalem. Ils ont remporté l'appel d'offres sous l'ancien gouvernement italien, celui de Paolo Gentiloni. Mais depuis que la Lega de Matteo Salvini est au gouvernement, c'est encore mieux.
Quand on est attaqué par la gauche dure, vous savez, ils disent que nous sommes des fondamentalistes religieux, des xénophobes, des extrémistes, des fascistes, des nazis, des suprémacistes blancs, des antisémites. Ils disent toutes ces choses sur nous. Ça nous donne une certaine crédibilité pour répondre, c'est des conneries, ok? Au moins la moitié des Italiens sont sur notre ligne. Et les Italiens ne sont rien de tout ça, nous non plus. Nous pensons juste qu'un pays doit avoir des frontières fermes et que les gens qui veulent y entrer doivent se soumettre à une procédure légale. C'est la loi.
Le projet d'académie pour un Occident judéo-chrétien serait donc en parfaite adéquation avec l'exécutif italien. Mais c'est bien plus compliqué. Le mouvement 5 étoiles, partenaire de la Lega dans la coalition, n'est pas du tout du genre traditionnaliste. Et en Italie, de très nombreux catholiques sont beaucoup plus ouverts. Il y a aussi la personnalité de Matteo Salvini, père de deux enfants, chacun issu d'une union différente. Il a ensuite filé l'amour avec une journaliste télé, plutôt proche de Berlusconi, et s'affiche depuis quelques mois avec une quatrième femme. Pas exactement le bon catholique. Benjamin Arnwell répond à cette contradiction après un long silence.
Je ne peux pas éluder cette question. C'est une vraie question. Tout ce que je peux dire, c'est qu'étant donné la bataille que nous menons, personne n'est parfait, je ne suis pas parfait. Mais si tu crois à cette composante fondamentale de l'histoire occidentale, peu importe tes imperfections, chacun peut apporter sa contribution à cette bataille.
La future académie aurait déjà reçu plus de 1000 demandes d'inscription, surtout du monde anglophone. Grande-Bretagne, États-Unis, Australie. Quelques demandes françaises, mais très peu. Benjamin Arnouel compte beaucoup sur l'incendie de Notre-Dame pour réveiller les consciences dans cet état laïque.
Ça aura éveillé à l'intérieur d'eux cette nostalgie et cette fin de quelque chose. Ils savent que c'est là, profond, en chacun et dans leur culture nationale. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que ça donne l'opportunité à la France de repenser son rapport à la foi chrétienne.
En attendant le résultat de l'enquête de la Cour des comptes sur l'appel d'offres pour gérer le monastère, Benjamin Arnouel est exagérément confiant. À la commune de Collépardo, on est plus prudent. Le conseil municipal attend, il espère malgré tout que le projet se fera pour sauver ce riche patrimoine. Il compte aussi sur les 80 000 euros mensuels de taxes locales. Dans l'entourage du monastère, la foi du Britannique n'est pas tout à fait contagieuse.
La une de Courrier International avec Virginie Lepetit. Bonjour Virginie.
Bonjour Juliette.
Vous revenez cette semaine évidemment sur les élections européennes, les résultats de ce scrutin, mais surtout les conséquences sur l'Union et sur les pays membres. Conséquences notables en Italie, Virginie.
Oui, en Italie, parce que en Italie, la Ligue, le parti de Matteo Salvini, a triomphé avec 34% des voix. Mais paradoxalement, ce triomphe met le ministre de l'Intérieur italien face à un dilemme. C'est ce que nous dit le quotidien romain La Repubblica. Alors, face à l'échec du mouvement 5 étoiles, son allié, Salvini doit-il rompre ? Pour La Repubblica, c'est la vieille coalition entre la Ligue, Forza Italia et les Frères d'Italie, une coalition très très à droite qui pourrait renaître de ses cendres. Elle pourrait compter sur plus de 49% des voix.
Mais après ces résultats assez extraordinaires, la Ligue ne pourrait-elle pas décider de gouverner toute seule ?
Et non, parce qu'elle ne se suffit pas à elle-même et elle va donc devoir choisir, embrasser à nouveau les fantômes du passé et serrer la main au cavaliere Berlusconi, en s'exposant ainsi à perdre le charme de la nouveauté, ou bien poursuivre son chemin avec le mouvement 5 étoiles. Et ce que nous dit La Repubblica, c'est que ça ne serait pas si mal de changer, car cette coalition actuelle est inapte à gouverner.
Donc c'est un bilan mauvais que dresse le quotidien italien.
Alors l'autre quotidien, grand quotidien italien, Milanese Corriere della Sera, le qualifie même de désastreux. Il dresse la liste des manquements de ce gouvernement composé de deux forces politiques nouvelles, populistes, et construites autour du culte du chef. Alors le résultat, c'est que Matteo Salvini et Luigi Di Maio, les deux chefs, se sont comportés comme des coqs de basse-cour, sans vraiment se répartir les rôles, en oubliant complètement de séparer leurs fonctions gouvernementales et leur casquette de leader politique. En somme, cette année, dit le Corriere della Sera, nous avons vu comment on pouvait gouverner sans être au gouvernement, mais dans la rue, sans étudier les dossiers, en procédant par slogan, sans respect pour les autres institutions républicaines, ni même pour ses propres collaborateurs, sur la base, non pas d'alliance, mais de pactes d'échange de services réciproques. Ces politiques ont renvoyé au pays l'image d'une société pauvre, corrompue, en proie à la criminalité, qui doit se fermer pour se protéger de l'invasion des migrants et qui a besoin d'hommes forts.
Virginie, on va continuer à parler des populistes. Courrier International publie également cette tribune qui est parue dans le Magyar Nemzet, dans laquelle un animateur radio, ardent soutien de Viktor Orban, défend le populisme décomplexé.
Alors, complètement décomplexé. Le mot d'ordre de cet animateur, c'est « Osons clamer haut et fort, ici comme à l'étranger, que nous refusons l'anéantissement et l'asservissement de l'Europe. Nous ne voulons pas vivre dans un régime orwellien qui nous dicte ce que l'on peut dire, ce que l'on doit penser. Nous devons soutenir sans céder les politiciens qui défendent notre civilisation, malgré les accusations de nazisme et les attaques concernant le culte de la personnalité. » Donc cet animateur, qui s'appelle, j'espère ne pas écorcher son nom, Jesenski Solz, s'en prend aux médias nationaux, bien sûr, mais aussi internationaux, qui tirent à boulet rouge sur le Premier ministre hongrois, le paria de la politique mondiale. Il dit « Allez croire, nous, Hongrois, ressentons un profond malaise face à notre dirigeant et nous devrions autant avoir honte de lui devant la planète entière que du fait d'être magyar. » Alors bien sûr, Ça ne lui plaît pas. Lui, il appelle à l'enthousiasme. Il veut que l'on vibre pour Orban comme on vibre pour Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton ou Adèle. Il veut soutenir non pas seulement Orban, mais aussi Trump, Salvini, Bolsonaro, enfin toute une liste. Et son opinion, visiblement, a été partagée par la majorité des Hongrois, puisque la Fidesz, le parti de Viktor Orban, a obtenu plus de 52% des voix aux élections européennes.
Et pendant ce temps-là, Virginie, au Royaume-Uni, on votait pour les élections européennes aussi, avec dans ce scrutin comme un véritable deuxième référendum sur le Brexit.
Oui, c'est l'analyse du Daily Telegraph qui dit qu'après 3 ans de bruit et de fureur, de menaces, d'invectives, de débats, la Grande-Bretagne se retrouve exactement où elle se trouvait en 2016. Les pro-Brexit l'emportent de quelques points sur les anti. Et pour le Télégraphe, on ne peut tirer aucune conclusion en matière de politique intérieure. Ce n'était pas une élection. Personne, le 26 mai, n'a voté pour quelqu'un qui allait assumer le pouvoir ou même exercer une fonction. Ce scrutin, c'était un deuxième référendum qui ne disait pas son nom. C'est en ce sens que les citoyens britanniques ont voté.
Merci Virginie Le Petit et des récits et bien d'autres encore à découvrir cette semaine dans le numéro de Courrier International. L'Europe passe au vert. À bientôt.
Lochmas in here, we're filled with chocolate, vanilla, strawberry.
And you guys had the Lochmas cooked and at the end I'll let you guys know.
Et après toutes ces nouvelles, on s'offre une petite douceur à Istanbul. Un peu partout dans la ville, surtout dans les quartiers branchés, on voit fleurir des enseignes clinquantes qui ne vendent qu'une chose, des lokma. Ce dessert traditionnel turc, originaire d'Anatolie, c'est tout simplement un beignet avec une pâte assez molle, enrichie en levure. On le frit d'abord et puis après on le plonge dans un sirop. Il était un peu passé de mode chez la jeune génération, mais ces nouvelles enseignes le remettent au goût du jour, Anandlauer.
Istanbul, comme toutes les grandes villes, a ses modes culinaires. Et rayon sucré, en ce moment, il n'y en a que pour le lokma. Jeunesse turque et touristes font la queue devant des boutiques minuscules pour acheter une barquette. C'est pourtant un dessert tout simple, on dirait même bête comme chou. De petites boules de pâte plongées dans de l'huile de friture. Des beignets, donc. Depuis des siècles, les Turcs les mangeaient lors d'occasions spéciales, mariages, décès, circoncisions, recouverts d'un simple sirop. Ce sirop est d'ailleurs, de l'avis des connaisseurs, la partie la plus difficile de toute la recette. Il ne doit être ni trop collant, ni trop coulant, ni trop sucré, ni pas assez. Mais ceux qui confectionnent ces lokma dits de nouvelle génération, qui se vendent comme des petits pains dans les quartiers branchés des villes, ont trouvé le moyen de ne pas rater la recette, ils ne s'embarrassent pas de sirop. À la place, ils fourrent les lokma de crème pâtissière ou de coulis au chocolat et servent leurs portions saupoudrées de noisettes, de noix de coco râpées, de morceaux de fruits ou de bonbons. Les puristes s'étranglent, mais les clients se régalent, quitte à payer 15 ou 20 livres, soit pas loin de 3 euros, une petite douceur qui, dans sa version traditionnelle, coûte 3 à 4 fois moins cher. Dans certaines rues passantes, une boutique de lokma ouvre quasiment chaque semaine, toutes plus photogéniques les unes que les autres. Car c'est évidemment pour cela que les clients se pressent aussi, publier la photo de leur appétissante barquette sur les réseaux sociaux, et ainsi entretenir une mode qui durera jusqu'à ce qu'une autre fantaisie sucrée ne vienne la remplacer.
On fait des exercices, on mouille son survêtement. Faut respirer à fond pour faire circuler le sang. Parcours santé sur des sentiers goudronnés.
Et tout ça c'est bon, mais c'est gras. Et il ne faut pas en abuser. Surtout, on ne connaît pas toujours la qualité nutritionnelle des produits qu'on consomme. Juste après la journée européenne de lutte contre l'obésité, des organisations de défense des consommateurs ont lancé, voilà quelques jours, une pétition européenne pour rendre obligatoire le Nutri-Score au sein de l'UE. C'est un étiquetage simplifié qui permet de savoir si un aliment est bon ou pas pour la santé. Parce que le surpoids et l'obésité touchent toute l'Europe. Les chiffres ont triplé en 30 ans selon l'OMS. Parmi les moyens de lutter contre ce que certains médecins appellent une épidémie, il y a la pratique d'une activité physique, d'où l'apparition du sport sur ordonnance, une idée apparue en Alsace, Viloen Munoz-Boileau.
Le principe est simple, il permet à une personne en surpoids de se faire prescrire des activités physiques par son médecin traitant, une initiative lancée par un médecin généraliste strasbourgeois, Alexandre Fels. Le médecin remet une ordonnance au patient, puis l'oriente vers une équipe d'éducateurs. Ces derniers mettent en place un parcours d'activité physique adapté, toujours en lien avec le médecin traitant. Seul hic, relevé par Alexandre Fels, la loi ne dit rien sur l'organisation et surtout elle ne prévoit aucun financement. Le Strasbourgeois s'est donc lancé dans la bataille. Il réclame un financement national et un remboursement par l'assurance maladie. Quant à l'organisation, Alexandre Fels compte sur les 500 maisons de sport santé promises par Emmanuel Macron d'ici la fin de son quinquennat en 2022. Ailleurs en Europe, la prescription du sport par les médecins est nettement plus développée, notamment en Suède, au Danemark et en Finlande. Ces trois pays vont bien au-delà du modèle français. En Suède, par exemple, la prescription ne se limite pas aux médecins traitants, mais a été généralisée à tous les professionnels de santé. Au Danemark, la ville d'Odense expérimente la location gratuite de vélos pour inciter ses habitants à avoir une activité physique régulière. Quant à la Finlande, le pays a lancé un programme national intitulé On the Move, qui doit permettre à toute la société finlandaise d'allier santé et bien-être. De quoi donner des idées à la France pour lutter efficacement contre l'obésité, qui est aujourd'hui la deuxième cause de décès en Europe, juste derrière le tabac.
Et pour lutter contre l'obésité, on vante également le fameux régime méditerranéen. Huile d'olive, crudité. Mais même dans les régions d'Europe où il s'agit d'un menu traditionnel, le surpoids gagne. Exemple en Andalousie avec François Musso.
En Andalousie, l'obésité touche 16% des adultes et 23% des enfants ou adolescents. Un des records dans le pays avec les Asturies et la Galice. Une loi a été récemment approuvée. Les mesures prises sont très variées et les effets, nous dit-on, commencent timidement à se faire sentir. Ainsi, tous les bars et les restaurants ont désormais l'obligation de servir de l'eau gratuite à tous leurs clients et aussi à proposer des rations de tout type et pas seulement celles traditionnelles à base d'aliments gras. Autre obligation, cette fois-ci pour les entreprises de plus de 50 employés, celle d'avoir un parking spécial pour bicyclettes afin de favoriser l'usage de ce moyen de transport. Mais c'est surtout envers les jeunes que la loi se dirige, limite de la publicité pour les sodas et les nourritures grasses et obligation dans les écoles et collèges de proposer à la cantine des repas sains et équilibrés.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
La musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette.
Aujourd'hui, on est entre l'Irlande et l'Allemagne.
Eh oui, l'Irlandaise Lisa Hannigan est suffisamment rare pour qu'on salue la sortie ce printemps d'un enregistrement en public. 3 ans après son dernier album, Lisa Hannigan, on l'a déjà croisée dans Accent d'Europe. Elle a grandi à Kilclune, au nord-est de l'Irlande, et vit à Dublin, où elle a étudié l'histoire de l'art. Son nom a longtemps été inséparable de celui de Damien Rice, qu'elle a accompagné sur plusieurs de ses disques avant de voler de ses propres ailes. À partir de 2007, 3 albums sont parus depuis, à mi-chemin entre folk et pop. Aujourd'hui, ce live in Dublin vient rappeler à quel point Lisa Hannigan est une artiste précieuse et exigeante, car ce sont des versions profondément remaniées et réarrangées que l'on peut y entendre, où l'Irlandaise est accompagnée par Stargaze, un formidable ensemble allemand de musique contemporaine dirigé par le chef d'orchestre André de Ridder. Le résultat est somptueux.
Live in Dublin de Lisa Hannigan. Merci Vincent Théval, à la semaine prochaine. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Passez un bon week-end et à lundi.